Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter un crime pas vraiment ordinaire. Une adolescente de 17 ans, Ida Bossard, qui en 1989 à Salomé dans le Nord, tue son père. Dans un contexte très particulier. Le père était néo-nazi. Chez eux, il y avait des grands portraits d'Hitler dans le salon et des croix gammées sur les murs. Je vous le dis tout de suite, allez au bout, parce que cette histoire a une drôle de fin. Pour la débriefer, j'ai invité l'avocate Blandine Lejeune, elle a défendu Ida, et ça a été son premier dossier devant les assises. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le matin du 18 juillet 1989, un peu après 8 heures, les gendarmes de Labassé dans le Nord reçoivent un appel téléphonique. Gendarmerie, j'écoute. À l'autre bout du fil, une mère de famille de Salomé, un village voisin. Elle s'appelle Jacqueline Bossard.
Venez, venez vite. Mon mari a été tué.
D'accord, ne touchez à rien, hein, madame. Nous serons là dans quelques minutes. Ne touchez à rien. Quelques minutes plus tard, les gendarmes débarquent devant le petit pavillon de la famille Bossard. Bonjour, madame. C'est la mère, celle qui les a appelés, qui leur ouvre. Bonjour, messieurs. Entrez. Ils entrent. Ils voient une adolescente en larmes près de la table de la salle à manger. Et surtout, en balayant la pièce du regard, ils voient sur le mur un portrait d'Hitler. Vous pouvez nous conduire auprès de la victime, madame ?
Oui. Suivez-moi.
Dans l'escalier qui mène à la chambre où le crime a eu lieu, il y a aussi des croix gammées. Dans la chambre au premier, le père, Jean-Claude Bossard, est bien mort. Il est sur le lit, couché sur le côté gauche. Et on l'a manifestement tué dans son sommeil parce qu'il est encore sous les draps. Bon, il a été tué d'une balle dans la nuque. Hein. Petit calibre, je dirais 22 longs rifles. Au passage, sacré bestiau, hein. Ce Bossard fait 1,90 m pour 110 kilos. Ce qui s'est passé ? Les gendarmes ne vont pas tarder à le comprendre en allant voir la gamine en pleurs près de la table de la salle à manger. Ida, c'est son prénom. Elle a 17 ans et elle a l'air d'en avoir 12.
C'est moi qui ai tué mon père.
C'est toi ? Tu peux nous expliquer comment ? Et après on parlera du pourquoi, d'accord ?
Ce matin, je me suis levé tôt. Et ma mère était déjà debout. Et quand elle est allée sortir les poubelles, j'ai attrapé le pistolet 22 longs rifles qui était caché au-dessus de l'horloge de la cuisine. Je suis monté dans la chambre où mon père y dormait encore. J'ai pointé l'arme sur lui et puis j'ai tiré dans sa nuque. Je l'ai entendu crier. J'ai vu du sang couler par son oreille. Et après, j'ai plus rien entendu.
Ça paraît incroyable. Une gamine malingre comme ça, qui tue son père d'une balle dans la nuque. Mais dis-moi, jeune fille, tu sais te servir d'une arme ?
Ben oui. Moi et mes sœurs, il nous a appris à tirer mon père. Les fusils, les revolvers, comment les charger, comment les armer, les épauler, puis tirer. Ça fait longtemps qu'on sait tout ça.
Vous êtes 5 filles, c'est ça ?
Oui. Mon père, il n'avait pas de fils. Alors il nous a tout appris à tirer.
Et je vous préviens tout de suite, ça n'est que le tout début de cette histoire. La suite n'est pas piquée des hannetons, car la gamine se met à raconter le contexte de ce meurtre. Et la mère aussi. Et les gendarmes tombent de leur chaise. Et vous aussi, ça va vous arriver, je vous préviens, vous allez halluciner. Le pater, vous l'avez compris, s'il y a un portrait d'Hitler dans sa salle à manger et des croix gammées dans son escalier, c'est un néo-nazi. C'est pas d'hier, hein. Au début, il s'est contenté du Front National de Jean-Marie Le Pen, et puis il s'est retrouvé au chômage, et il a commencé à développer une obsession. C'est un immigré qui m'a pris mon travail. Un bougnoul. Et donc à partir de là, le Front National, ça ne lui a plus suffi. Alors il a rejoint le PNFE, le Parti Nationaliste Français et Européen, un parti néo-nazi dont le slogan est « La France d'abord, blanche toujours ». Ça vous donne une idée du programme.
Et c'est là qu'il a commencé à nous amener au rassemblement.
C'était obligatoire ? Vous n'aviez pas le choix ?
On avait le choix de rien. Par exemple, tous les matins, il fallait venir saluer le portrait de tonton Hitler dans le salon.
Et quand il leur faisait une dictée, c'était toujours des extraits de Mein Kampf.
La plus grande de toutes, virgule, est la race allemande, point. L'espèce la plus dangereuse, virgule, est la race juive, point. Le juif, virgule, est celui qui pousse le plus ardemment aujourd'hui,
virgule.
Et quand il s'agissait de punir ses filles, il cherchait des recettes de torture dans les manuels nazis. Et comme il n'avait plus de travail, il s'est mis à pister ses filles. À l'école primaire, au collège, au lycée, il se mettait derrière les grilles et il les surveillait dans la cour pour voir avec qui elles jouaient, à qui elles parlaient, qui elles fréquentaient. Et le soir, il les remontait comme des pendules.
Faut pas vous laisser faire. Vous devez vous battre. Comme des hommes.
Et quelquefois, il sautait la grille pour empêcher les professeurs d'intervenir. Ida et ses sœurs ont subi tout ça de leur naissance jusqu'à la mort de leur bourreau. Ça et le reste. Car bien entendu, il les a élevés à la schlag. Il les frappait durement. Et l'enquête va montrer que son souffre-douleur, celle qui dégustait le plus, c'était Ida, qui vient d'avouer son assassinat. Vous savez comment il l'a surnommée, la petite Ida ? Le papa ? La Mongolienne.
Oh, viens là, la Mongolienne ! Allez, dégage, Mongolienne !
À tout bout de champ, toute la journée. Et c'est pas tout. Il avait aussi affublé ses filles d'un deuxième prénom. À chacune, le nom d'un camp de concentration. Ida s'appelait Ida Dachau. Ça vous donne une idée de la folie du bonhomme, qui par ailleurs était négationniste. C'est-à-dire qu'il niait l'existence des camps de concentration et des fours crématoires. Et en même temps, il donnait le nom de ses camps à ses filles. C'est cinglé. C'est pervers jusqu'au bout des ongles. Évidemment, pas question de ramener des copines à la maison. D'ailleurs, globalement, avoir des copines... ça n'était pas conseillé, hein. Trop différentes, pas la même éducation. Alors elles sont restées toute leur enfance entre elles, toutes les cinq. Même s'il y avait des grosses différences d'âge, hein. Ida au moment du meurtre de son père a 17 ans, mais elle a deux sœurs majeures et la petite dernière n'a qu'un an. Les gendarmes sont effarés par ce qu'ils découvrent jour après jour. Les gendarmes font le tour du village. Et ils s'aperçoivent que les gens avaient la trouille de Bossard.
Oh, je sais pas si vous l'avez lu, l'eau. Il s'est pas loin de 2 mètres. Plus de 100 kilos. Habillé avec un pantalon noir, un gilet avec des poches partout, et des rangers aux pieds. Moi, quand je le voyais de loin, je vous le dis, je changeais de trottoir. Ça, je peux vous le dire. Quand il y avait pas... C'est chiant, en plus.
Des bergers allemands, bien sûr. Qu'il avait baptisé Wolf et Eva. Eva comme Eva Braun, la femme d'Hitler. Et puis, mais ça les gendarmes l'ont compris tout de suite dès qu'ils ont débarqué dans le pavillon. Ils vivaient dans la misère, les Bossards. Surtout depuis que le père était au chômage, c'est-à-dire depuis des années. La mère, certes, travaillait dans le textile, elle était bobinière, Mais avec 5 enfants, ils avaient beaucoup de mal à y arriver. Les Bossards ne sont jamais partis en vacances. Toute la famille était habillée par les services sociaux. L'enquête va révéler qu'Ida, dès l'âge de 8 ans, avait lancé des signaux d'alarme. Elle s'était confiée à une assistante sociale. Elle avait demandé à aller en famille d'accueil. Mais ça n'était pas allé plus loin. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Pour parfaire le tableau, il faut ajouter qu'Ida était malade depuis toute petite. Des problèmes au cœur.
J'ai été opérée 3 fois, dont une fois j'avais 1 an. Et puis j'ai aussi des problèmes aux poumons. Je m'essouffle. Je peux pas faire de sport. Et ça, mon père, il aimait pas. Hein. Déjà qu'il avait pas eu de garçon. Que je puisse pas faire de sport.
Alors, de temps en temps, il lui retirait ses médicaments. Comme s'il voulait qu'elle meure. Je vous ai dit tout à l'heure que les gamines n'avaient pas le droit de recevoir des copines à la maison. Et sa femme non plus, d'ailleurs. Alors que lui, en revanche, il ne se gênait pas. Et ses amis étaient du même tonneau que lui, tous néo-nazis. Il y avait donc régulièrement des rassemblements nazis à la maison. Et les gamines voyaient tout. Elles entendaient tout.
Il y a même des fois où ses amis, ils ont dit à mon père qu'il était trop dur avec nous, qu'il fallait qu'il se calme. Oh, mais lui, il s'en fichait complètement. Hein. Dès qu'ils étaient partis, ben, il recommençait.
L'enquête révèle aussi que Jean-Claude Bossard avait un petit casier judiciaire.
Un vol à l'étalage, figure-toi. Interpellation à domicile et garde à vue. Mais c'est pas tout. Il a été mêlé à une affaire de meurtre.
Il faut que je vous la raconte, celle-là. C'était à Haut-Bourdin, dans le Nord, en 1984, il y a 5 ans. Avec un de ses copains fachos, qui s'appelait Michel Cliquenois, Jean-Claude Bossard va planter dans le jardin d'un immigré, un certain Karim Benhamida, une pancarte. Mort au Bougnoul, vive Le Pen. L'autre, évidemment, quand il rentre chez lui, après 6 moyennement, il va arracher la pancarte. Et Cliquenois, ça l'énerve. Alors il le dessoude à la 22 long rifle. Au procès 2 ans plus tard, Cliquenois prend 9 ans. Et Bossard s'en sort avec une condamnation pour incitation à la haine raciale. Au point où nous en sommes de cette enquête, je voudrais vous mettre en garde. Parce qu'on pourrait en rester à une lecture simpliste du meurtre de Jean-Claude Bossard par sa fille Ida. Elle a tué son père parce que c'était un insupportable facho, parce que c'était un fou qui l'obligeait à saluer le portrait d'Hitler tous les matins et qui lui faisait des dictées tirées de Mein Kampf et qui lui enseignait la haine des bougnoules, comme il disait, et qui poussait ses filles à se battre à l'école. Une lecture politique, au fond, de ce crime. Mais ça ne serait pas dire la vérité. Et ce que révèle l'enquête, c'est que le crime a des ressorts plus intimes que la politique. Et ça se joue dans les jours qui précèdent le meurtre. Au début des vacances d'été, l'une des sœurs aînées d'Ida, Christine, qui est majeure et qui a un petit copain, se rebelle contre l'autorité paternelle. Or, c'est la sœur adorée d'Ida. Alors elle la met dans la confidence.
« J'en peux plus, Ida. Alors je vais partir de la maison. Je vais m'enfuir. »
Elle lui a dit quand elle allait partir, où elle allait partir et avec qui. Et elle part, en laissant une lettre pour son père. Il faut que je vous la lise, cette lettre.
« Mes très chers parents, je suis parti en voyage ou presque. Mon père, je ne veux surtout pas que tu te mettes des idées en tête. Sache que j'ai toujours, et pour toujours, les idées nationalistes. » Mon combat est de vaincre ou de périr. Je lutterai pour mon idéal, celui de ma race. Je vais m'inscrire au PNFE
et si on se revoit dans notre lieu sacré, garde ton sang-froid. Papa, je me souviens que tu m'as dit que je pouvais partir et que tu ne me retiendrais pas. Alors j'ai suivi tes conseils. J'ai une grande crainte de ta réaction. Moi, la fille de mon père chéri et de ma mère aussi, je ne suis pas la sorte de fille qui va avec des sourasses, comme vous pouvez le croire. Race, famille, patrie, France d'abord, blanche toujours, je donne mon chat à Ida, merci et à bientôt, Christine. Quand il tombe sur cette lettre et qu'il découvre que sa fille est partie, Jean-Claude Bossard est ivre de rage et il débarque à la gendarmerie.
« J'exige que vous m'aidiez à la retrouver !»«
Ah mais, c'est pas si simple, monsieur Bossard, hein. C'est qu'elle est majeure, votre fille. Et elle est libre d'aller où bon lui semble. Et vous, vous n'y pouvez rien. Désolé. » Il se doute évidemment qu'Ida, sa petite sœur chérie, en sait plus qu'elle ne le dit. Elle sait où est Christine, forcément. Alors il la cuisine, il la menace, il la frappe même. Mais Ida ne lâche rien.
Puisque c'est comme ça, je te donne l'ordre d'aller porter plainte contre ta sœur Christine. Tu diras qu'elle te frappait. Ça forcera les gendarmes à la rechercher.
Mais les gendarmes ne sont pas dupes. Et à partir de là, il devient un fou. Fou, fou.
Je suis certain qu'elle est partie avec un youpin en plus. Oh, ça c'est sûr.
Et c'est vrai. L'amoureux de Christine est juif. Mais en vérité, il n'en sait rien. Il est en plein délire obsessionnel. Et c'est là qu'il prend une décision qui va sceller son sort. Il transforme le sous-sol du pavillon en salle de torture.
C'est là que je vais régler mes comptes à ce youpin qui est parti avec ma fille. Et toi, Ida, tu sais forcément quelque chose, hein? C'est sûr qu'elle t'a dit où elle allait. Je le sais parce que... vous vous dites tout avec Christine. Je te préviens. Si tu me dis rien, tu passeras aussi.
Et c'est à ce moment-là qu'il place le pistolet 22 long rifle au-dessus de la pendule, dans la cuisine, à portée de main, le pistolet par lequel il va mourir.
Ida, écoute-moi bien. Si Christine et son youpin viennent un jour où je suis pas là, tu prends le pistolet... et tu les tues tous les deux.
Et il lui montre où est le pistolet. Fallait pas, Jean-Claude. Fallait pas. Et pendant ce temps, l'autre se met à remuer toute la région. Lille, Tourcoing. Il est toujours englué dans son délire. Et puis un jour, il arrive et il dit...
ça y est, je l'ai localisé. J'ai son adresse.
C'est ça qui déclenche tout. C'est parce qu'il prétend avoir retrouvé Christine et qu'il dit qu'il va la tuer, qu'Ida abat son père d'un coup de pistolet dans la nuque. Elle le tue en vérité pour sauver sa grande sœur. Pas parce qu'il est facho, pas parce qu'il adore Hitler. C'est parce qu'il menace de tuer Christine. C'est le mobile du crime. Il n'est absolument pas politique. Elle a été arrêtée, bien sûr, Ida, le jour du meurtre de son père, et inculpée de meurtre, et envoyée en prison. C'est normal. Elle l'a tué. Mais il est aussi normal qu'elle n'y reste pas trop longtemps. Elle a 17 ans. Et donc, au bout d'une petite semaine, elle échoue dans un foyer. Le juge a beaucoup hésité, parce qu'il y avait une autre solution, la laisser avec sa mère et ses sœurs. Il a jugé que pour l'instant, c'était impensable. Impensable parce que, pour ses sœurs et pour sa mère, c'est compliqué ce qui vient de se passer. Parce que d'un côté, elles sont soulagées d'être débarrassées du tyran, qui pourrissait leur vie depuis tant d'années, mais de l'autre, elles en veulent à Ida. C'était leur père, tout de même. Et la mère, c'était son mari. Depuis le temps qu'il présidait à chaque minute de leur vie. Il leur manque. Et elles sont perdues. Et elles ont besoin de digérer, de réorganiser leur vie. Alors Ida pourra peut-être rentrer à la maison, mais pas tout de suite. C'est trop tôt. Ida, donc, sera jugée pour meurtre devant la cour d'assises des mineurs de Douai. Elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. Et donc on lui désigne une jeune avocate commise d'office. À ce petit jeu, elle aurait pu tomber sur une mauvaise. Elle tombe sur une bonne. Jeune, mais bonne. Une certaine Blandine Lejeune. Elle débute, c'est sa première affaire devant les assises, et du coup, elle s'investit énormément dans cette affaire. Elle devient la confidente d'Ida. Un peu sa grande sœur, son repère en tout cas dans le monde des adultes. Ça va être compliqué, ce procès. Parce qu'Ida a tout de même tué. Alors certes, elle a tué un fou, un grand pervers, un tordu de première, mais elle l'a tué. Mais si elle se défend bien, et si sa jeune avocate la défend bien, elle peut être acquittée. Le procès d'Ida Bossard devant la cour d'assises des mineurs de Douai s'ouvre le 18 mai 1992, un peu moins de 3 ans après le meurtre. Ida a désormais 20 ans. C'est un procès à huis clos, comme tous les procès de mineurs. Mineurs au moment des faits. Et c'est un procès court puisqu'il ne va durer qu'une journée. Ce soir, le sort d'Ida sera scellé. Particularité, il n'y a pas de partie civile. C'est-à-dire que personne ne représente les intérêts du mort et de son entourage. Sa mère et ses sœurs sont là, mais aucune d'entre elles ne s'est constituée partie civile. Comment vont-elles se comporter à l'audience? Que vont-elles dire? Mathilde, l'aînée, est la première des 4 sœurs d'Ida à se présenter à la barre. On sait qu'au lendemain du meurtre, elle en voulait beaucoup à sa sœur d'avoir tué son père. Elle voulait même la tuer. Aujourd'hui, elle a changé d'avis.
Ida, je pourrais dire qu'elle a sauvé notre vie. Oui, c'est ça. Elle a sauvé notre vie.
Et les unes après les autres, toutes les sœurs viennent dire à peu près la même chose et raconter l'enfer dans lequel elles ont grandi. Et puis Ida est elle-même interrogée.
Je regrette pas mon geste. Je lui en voulais d'être nationaliste et d'être méchant avec nous. Maintenant, je n'en veux plus. Mais je regrette pas mon geste.
Dans cet étrange procès, c'est la victime qui finalement est coupable. Ensuite arrive un expert psychologue.
Dans cette affaire, Ida fait face à une double contrainte. C'était soit la mort de sa sœur Christine, soit la mort de son père. Elle a dû arbitrer entre ces deux morts.
À la fin de la journée, l'avocate générale se lève pour ses réquisitions. Va-t-elle demander de la prison pour Ida?
Je vous demande une sanction de principe qui pourrait se situer entre 2 et 3 ans de prison avec sursis.
Réquisitoire très modéré, l'acquittement est encore possible. Et voici que Maître Lejeune se lève.
Le jour du meurtre, le 18 juillet 1989, Ida a été placée dans un climat de violence extrême et elle devait faire face à un choix morbide. Où elle tuait, où c'était le père qui tuait. C'est une situation de légitime défense.
Le soir venu, le président de la cour d'assises, ses 2 assesseurs et les 6 jurés se retirent pour délibérer. Le délibéré ne dure que 40 minutes. Et à l'issue, quand elle revient dans le box pour entendre le verdict, Ida est tétanisée.
À la question, Ida Bossard est-elle coupable de meurtre? Les jurés ont répondu non.
Elle est acquittée. Elle est acquittée. Et elle, dans son box, elle ne comprend pas tout de suite. Son avocate Blandine Lejeune doit le lui expliquer.
Tu es acquittée, Ida. Tu es acquitté, tu n'es pas une meurtrière. Tu n'es pas une criminelle. Ce que tu as fait, tu n'avais pas d'autre choix que de le faire. D'accord ?
Ça y est, elle a compris. Elle sort aux marches du palais de justice et le micro d'Europe 1 est là.
Ça me fait drôle d'être dehors. Puis je suis contente. Je suis acquittée, je suis contente.
Quand vous avez entendu le verdict, acquittement, qu'est-ce que vous avez senti au fond de vous-même ?
Mon cœur est brûlé, j'allais tomber dans les pommes. Puis maintenant je vais essayer de tout oublier. Je vais refaire une vie toute neuve.
Quand vous avez fait ça, c'était pas pour vous finalement ?
Non, c'était pour la famille avant tout. Qui avait au départ du mal de comprendre, elle m'en voulait. Maintenant elle m'en veut plus du tout. Je vais écœurer des néo-nazis.
Vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Bah, je vais refaire une vie. Je vais revivre normalement. Je vais refaire une vie toute neuve.
Comment vous allez élever vos enfants ?
Bien normal. Normal comme les parents font pour élever leurs enfants. Mais je vais pas lui faire vivre la vie que moi j'ai vécue.
Est-ce que vous regrettez votre geste ?
Non.
L'histoire d'Ida Bossard pourrait s'arrêter là, sur cet acquittement qui résonne comme une décision juste. Et on imagine les cinq sœurs rassemblées juste après le verdict autour de leur maman, soulagées et réunies pour un nouveau départ. Sauf que ça n'est pas un film américain. Et cette histoire ne se finit pas bien. Ida, toute blanchie qu'elle soit par la justice, ne va pas retrouver ses sœurs et sa mère. Il n'y aura pas de réconciliation. La mère d'abord, Jacqueline Bossard, va refaire sa vie. Et avec qui, d'après vous ? Avec un ami de son défunt mari, un facho de la même trempe, qui va la battre et l'envoyer plusieurs fois aux urgences. Et puis Ida, ça je ne vous l'ai pas encore dit, a eu un petit bébé avant le procès. On lui en retire la garde. Et pourquoi ? Sur dénonciation de sa grande sœur Christine, celle-là même qu'Ida a voulu protéger et pour qui elle a tué son père. Christine, qui entre nous n'en sait rien du tout, prétend qu'Ida maltraite son bébé. Et c'est pas fini. En 2008, 20 ans après les faits, on annonce la sortie d'un film inspiré de cette histoire. Pleur en silence de Gabriel Bix, un jeune réalisateur. Il a beaucoup impliqué Ida dans le projet. Elle l'a aidé à écrire le film. Elle est là sur le tournage, elle a même participé à la mise en scène en expliquant aux comédiens comment elle voyait les choses. Mais le film ne sortira jamais. Il y a quelques projections privées, mais ses sœurs et sa mère empêchent qu'il sorte. Et pour ça, elle convoque la presse. Et elle raconte tout ensemble, la mère en tête, une histoire stupéfiante. Il y a 20 ans, elles ont noué un pacte. Elles se sont dit que la peine serait moins élevée pour Ida, qui était mineure, que pour la mère. Mais la mère prétend qu'en vérité, c'est elle qui a tué son mari.
J'ai tiré. Une fois, pas deux. Je sais pas pourquoi. Je ne voulais pas le tuer, je voulais lui faire mal. Parce que lui nous en a fait du mal.
Et les sœurs d'Ida confirment. Et donc le film est faux. Et donc il faut l'interdire. Et vous me posez la question. Est-ce que cette nouvelle version de l'histoire est vraie ? Eh ben j'en sais rien, ma foi. J'en sais rien. Maître Blandine Lejeune, vous avez donc été l'avocate de Ida Bossard à ce procès devant la cour d'assises des mineurs. Je termine mon histoire en disant que je ne sais pas quelle est finalement la bonne version de ce meurtre. Et vous, vous savez ?
Ah bah écoutez, moi j'ai toujours cru Ida, j'avais aucune raison de ne pas la croire. Je pense que vous avez parfaitement résumé les histoires de famille qui ont éclaté, surtout au moment de la sortie de ce film. Puis c'était très facile pour Jacqueline Bossard de venir prétendre qu'elle avait tué son mari une fois que les faits étaient prescrits.
Parce qu'ils sont prescrits à ce moment-là, évidemment.
Évidemment, au moment où elle vient prétendre qu'elle a tué son mari, les faits sont prescrits.
Mais quel est le moteur alors de ce mensonge, selon vous ? Pourquoi elle fait ça ?
Je pense que c'était pour isoler Ida. C'était pour isoler Ida, et puis vous l'avez parfaitement résumé, pour empêcher la sortie de ce film et déstabiliser le réalisateur.
Point à la ligne.
Pour moi, oui. Après, d'ailleurs, cette histoire, on en a un petit peu parlé dans la presse, mais ça a fait, excusez-moi l'expression, mais ça a un peu fait flop. Parce qu'on s'est bien rendu compte que cette femme manipulait un peu l'opinion parce que c'était un peu facile de venir dire plus de 20 ans après quand les faits sont prescrits, en fait, coucou, c'est moi.
En fait, jusqu'au bout, elle vient lui enlever quelque chose et au dernier moment, elle lui enlève même le fait qu'elle ait tué son père.
Absolument, et puis on l'isole de la famille, et puis on fait croire à cette espèce de pacte complètement débile, j'ai envie de dire, parce que vous imaginez, moi quand on m'a interrogé là-dessus, qu'est-ce que j'ai répondu ? J'ai répondu d'abord, c'est prescrit, c'est un peu facile, et en plus ça voudrait dire, si c'était vrai que cette femme a fait porter un assassinat à sa fille, mais qu'est-ce que ça veut dire enfin ?
Ouais. C'est dingue. Les sœurs, c'est étonnant parce que même celles pour lesquelles elle a fait ça ne la soutiennent pas. Ça dit quoi ? Ça dit que même le père mort, la mère a gardé une emprise sur ses enfants ?
Je pense que c'était une famille qui était assez, j'ai envie de dire, fracassée quand même. Hein. Bon, il y a eu cette histoire du père, de la mort du père, où Mathilde avait condamné sa sœur à mort. Hein, parce que Mathilde, elle avait dit, si Ida sort de prison, je la tue. Il a fallu qu'on la fasse protéger, qu'on la mette dans un foyer où on était sûr que Mathilde puisse pas entrer en contact. Ensuite, ça s'est brouillé avec Christine. Ida a eu une vie assez chaotique, sa petite a été placée, elle n'a jamais perdu le contact avec elle, elle venait la voir alors qu'elle était placée dans une famille d'accueil dans l'Aisne et qu'elle habitait loin. Donc elle a vraiment galéré, la pauvre Ida, avec une famille qui ne l'a pas soutenue, ça c'est clair.
Mais au procès, elle la soutient, toute.
Oui. Je pense que c'était pas la peine de faire mentir le dossier. Elle pouvait pas venir dire que cet homme était un ange. Elle pouvait pas venir contrecarrer des preuves. La salle de torture, il y avait des preuves. Les livres néo-nazis, il y avait des preuves. D'ailleurs, quand la juge d'instruction a tenté de faire une perquisition parce que Ida avait dit, mon père a des livres sur la torturation, elle avait dit avec ses mots de petite fille, au lieu de torture, sur la torturation, immédiatement, la juge d'instruction a ordonné une perquisition, et quand la police est arrivée, il y avait un feu dans la cheminée, des livres étaient en train de brûler, et il y avait tout un groupe de néo-nazis qui essayaient de brouiller un peu les pistes. On ne voulait pas trop savoir quel était le passé de cet homme, et puis ses convictions politiques, et le PNFE, c'était le Front National puissance 10 000. Hein.
Oui, puissance 10 000. Est-ce que vous avez compris pourquoi elles ne se sont pas constituées partie civile ? Parce que ça, c'est un moment très généreux. En gros, on dit, c'est ma fille, elle est accusée. Alors certes, elle a tué mon mari, mais on ne va pas aller se positionner en face d'elle.
Mais oui, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Quand il y a un meurtre familial, intrafamilial, on n'a pas envie de venir aller
la barque,
à l'encontre.
Quoi.
Voilà, charger la barque, c'était une jeune fille, elle avait quand même tué un père qui était quand même ultra dangereux et qui avait chargé une arme en vue de, si c'était tuer Christine, c'était lui tirer une balle dans la cuisse jusqu'à ce qu'il arrive pour qu'il puisse la torturer et la finir lui-même. Mmh. C'était ça l'ordre paternel. Mmh.
C'était, je l'ai dit tout à l'heure, votre premier gros dossier de jeune avocate. On s'investit.
Tout à fait, mon premier dossier d'assises, oui.
On s'investit toujours beaucoup dans le premier dossier.
Oui, et puis c'était une affaire hors norme. Donc effectivement, j'étais très investie. En plus, Ida était très attachante. Je l'ai suivie depuis son incarcération jusqu'à sa remise en liberté, toute l'instruction, toutes ses difficultés quand elle était en foyer. Donc je l'ai vraiment accompagnée.
C'était un investissement affectif, on est d'accord, en plus de l'investissement professionnel.
Oui, il y a eu de l'investissement affectif, tout à fait.
Qui n'est jamais conseillé.
Qui n'est jamais conseillé, mais voyez-vous, parfois, peut-être parce que j'étais un peu plus jeune et que vraiment son affaire m'avait beaucoup touchée et que cette jeune fille était très touchante. Il y a eu de ma part, bon, mais une fois que j'étais aux assises, là j'étais dans un rôle professionnel. Hein.
Ouais. Mais il est allé jusqu'où cet investissement ?
Ah, c'est-à-dire que Ida, c'est quelqu'un que j'ai quand même suivi. Il y a eu un livre qui a été écrit par elle avec une écrivaine qui s'appelle Françoise Hamel. Et je l'ai accompagnée aussi dans la signature des contrats et puis dans la présentation du livre et dans la certaine dédicace. Donc, c'est allé au-delà de son acquittement. Mmh. Je l'ai aidé aussi dans le cadre de ses difficultés à récupérer sa fille.
Mmh.
Donc là, c'est toujours dans votre, dans le cadre de votre métier d'avocate.
Vous êtes toujours. Oui, ça restait. Ça restait quand même professionnel.
C'est-à-dire, vous l'invitez pas à la maison à manger une omelette.
Non. Il y avait de l'investissement affectif au sens où je pouvais pas ne pas être touchée par cette jeune femme, mais en même temps, je suis restée très professionnelle. Chacun à sa place.
Vous êtes restée en lien avec elle?
Je suis restée en lien pas mal de temps après son acquittement, mais après, je l'ai perdue de vue. Ça, la vie a fait que de temps en temps, j'avais une petite nouvelle, elle m'envoyait un faire-part de naissance, parce qu'elle a eu d'autres enfants, ou elle m'appelait quand elle traversait une difficulté juridique, mais ça restait très, très ponctuel, très épisodique.
Vous savez ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle a renoué un peu avec ses sœurs et sa mère, ou pas du tout?
Eh bien, malheureusement, là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, parce que là, je n'ai plus du tout de nouvelles. Les dernières étaient plutôt pas très bonnes pour sa santé, mais c'était par des personnes interposées. Je n'ai plus de nouvelles directement par elle.
Directement par elle. Alors bon, maintenant parlons du mobile. Comment est-ce que vous arbitrez les deux mobiles possibles? Le premier, c'est un salaud, c'est un nazi, donc je le tue parce que c'est un salopard. Et puis l'autre, en vérité, je le tue uniquement parce qu'il menace ma sœur Christine. Et donc, c'est un motif intime. Politique, intime. Vous placez la balance où, vous?
Alors moi, je n'ai pas du tout placé la balance dans le volet politique. Elle n'a pas tué son père parce qu'il était néo-nazi. Et d'ailleurs, Ida, elle avait 17 ans et j'ai envie de dire un âge mental qui était plutôt adolescent, 13-14 ans. Donc elle, la politique, elle savait que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était pas beau, mais elle n'avait pas vraiment de conscience politique. Moi, j'ai vraiment placé le curseur sur la légitime défense, c'est-à-dire que l'arme s'est retournée contre celui qui l'avait chargée et armée, et il y avait la mort au bout du canon. La mort de Christine, voire peut-être la mort de la famille, parce que ce type était tellement fou qu'il aurait été capable de tuer toute la famille et de se suicider après, ou alors tuer son père. Et je plaidais la légitime défense d'autrui, même si elle était décalée, même si au moment où elle le tue, il dort. De toutes les façons, elle ne pouvait pas faire autrement, parce que vous imaginez un seul instant qu'il se soit réveillé et le sort de la pauvre Ida était scellé.
Quand vous la rencontrez, Blandine Lejeune, elle sait que le nazisme est une ignominie ou pas?
Oui, ça elle le sait. Et alors, elle est quasiment la seule de la famille à l'époque.
Les autres sœurs pas?
Ah, les autres sœurs, elles sont quand même beaucoup plus embrigadées. Alors, elles sont embrigadées, mais il faut leur reconnaître les circonstances atténuantes, que de vivre dans un tel climat, c'était peut-être difficile pour elles de penser autrement que comme le paternel. Mais Ida est la seule qui a une position critique par rapport au néonazisme.
Alors, venons-en au verdict. L'annonce de l'acquittement est étonnante, puisqu'il s'agit, comme dans tous les procès d'assises, de répondre à une question. Hein. Et donc, la question, c'est, Ida Bossard est-elle coupable de meurtre? Et les jurés répondent non. Et en vérité, c'est faux. Elle l'a bien tuée.
D'abord, à l'époque, ils n'avaient pas à motiver leur décision.
Oui.
Donc, il y a eu des affaires d'acquittement comme ça, où des gens, même coupables, pouvaient se retrouver acquittés. Mais je pense que la légitime défense a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que cette gamine n'avait fait que protéger les siens. Plus qu'elle-même, d'ailleurs. Parce qu'elle prend énormément de risques. On imagine si le père s'était réveillé. Donc en fait, elle a peur pour Christine, elle a peur pour sa famille.
Quand vous allez au procès, vous pensez que vous avez une chance d'obtenir cet acquittement, ou dans votre esprit, c'est acquis d'avance?
Ah, c'est pas acquis d'avance. Et puis l'avocate générale avait été très habile, hein, parce qu'elle avait dit, certes, elle avait eu des réquisitions très modérées, mais en disant que pour sa reconstruction, Aïda, il fallait qu'elle soit déclarée coupable, parce qu'elle sentait bien que j'allais plaider l'acquittement. J'avais pas besoin de le dire. Mmh. Je veux dire, c'était tellement criant, tous les témoignages qui se sont succédés, et même la famille, là. La famille est venue dire que ce que disait Aïda était vrai. Ils n'ont pas dit « elle ment, elle raconte n'importe quoi ». Et puis il y avait des précédents, et puis il y avait un casier, et puis même les gendarmes, ils sont venus raconter un peu les difficultés qu'ils avaient avec le père Bossard. Donc tout ça était très prégnant. Donc je ne considérais pas que c'était acquis, mais ce qui était certain, c'était que je le plaiderais.
Et que c'était jouable. Elle n'avait pas complètement tort, et puis ça sera ma dernière question, l'avocate générale, parce que quand on a tué, véritablement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que quelque part il soit inscrit que vous avez tué et qu'on vous a donné tellement de circonstances atténuantes que vous n'avez pas eu de peine de prison?
Alors c'était effectivement fort habile, c'était sa version, c'était en plus elle disait c'est une mineure, c'est d'autant plus important pour une mineure d'intégrer la sanction, même si je ne demande pas qu'elle aille en prison. Néanmoins, la légitime défense, le texte dit il n'y a ni crime ni délit quand vous agissez pour la légitime défense de vous-même ou d'autrui. Mmh. Donc si vous agissez en qualité de légitime défense, la loi dit il n'y a pas de crime.
Elle a eu de la chance la de tomber sur vous, Blandine, non ? Si.
Je sais pas. Bien d'autres auraient peut-être voulu être à ma place, vous savez.
Merci beaucoup, Blandine Lejeune. Merci.
Je vous en prie, Christophe Ondelatte.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Avant de vous laisser, une excellente nouvelle pour vous. Désormais, vous avez la possibilité de vous abonner à Ondelatte Raconte Premium sur Apple Podcast. Pour 2,49€ par mois, vous pouvez écouter mes histoires avant tout le monde et entendre une sélection de récits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors abonnez-vous dès maintenant sur Apple Podcast.